Bah c'est parti.
Le Sonolab.
Le Sonolab.
Sonolab.
Le laboratoire sonore de Jet.
Des ateliers sur mesure pour questionner, comprendre, écouter et pratiquer avec le son.
Sonolab.
Voyage musical aux États-Unis.
Une épopée radiophonique.
Lycée Raoul Vapier.
Lycée Albert Chassagne.
Henri Bergson.
Raphaël Élisée.
Ambroise Paré.
Lycée Éric Tabarly.
Rosa Parks.
En collaboration avec Jet FM et
l'Orchestre National des Pays de la Loire.
Alors aujourd'hui, on va parler de la prohibition. La prohibition rentre en vigueur en 1920. Le 18e amendement qui interdit la production, la vente, l'importation et la consommation de boissons alcoolisées au niveau fédéral. Nous allons poser des questions à deux personnes qui ont vécu la prohibition.
Comment avez-vous vécu la prohibition ?
Ça a été très dur. J'ai été alcoolique, mais ça m'a sauvé la vie et a sauvé ma vie de couple. Je m'en suis rendu compte plus tard, j'étais violent avec ma femme.
Je n'ai pas vu la différence, comme je ne buvais pas, mais j'ai vu que les gens étaient plus agressifs dans la rue.
Avez-vous vu ou entendu des personnes entrer ou acheter des boissons alcoolisées dans des bars clandestins ?
J'ai moi-même acheté du rhum de façon clandestine et entré dans des bars pour boire. La mafia m'a même proposé de leur acheter de l'alcool. C'était très populaire à cette époque.
Moi, de mon côté, j'entendais mes amis en parler, mais c'est tout.
Comment vos familles ont vécu cet amendement ?
Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma femme a été contente de cet amendement et pour ma famille, je ne sais pas trop. Je pense que cela a été juste une question d'habitude.
Moi, je sais que pour ma femme et mes enfants, cela n'a rien changé. Mais pour mon père, ancien alcoolique, ça a été très dur. Ça l'a aidé à s'en sortir.
La fin de la prohibition aux élections présidentielles de 1932, le candidat démocrate Franklin Delano Roosevelt fit de la fin de la prohibition une promesse de campagne. Dès mars 1933, il légalise la bière, le cidre et le vin, avant de faire adopter le 21e amendement, le 5 décembre 1933.
J'ai une dernière question pour vous, Ethan. Est-ce que vous avez repris la consommation d'alcool après la fin de l'amendement ?
J'ai arrêté l'alcool. Cet amendement m'a vraiment aidé à arrêter pendant 13 ans. Et après, j'ai repris l'alcool modérément ou par plaisir avec les amis.
Qu'en pensez-vous de la musique qui a été créée pour la fin de la prohibition ?
Cette musique était vraiment bien. Elle exprimait la joie, je m'en rappelle. C'était la fête partout, dans les bars et dans les rues.
Oui, je m'en rappelle aussi. C'était la fête tous les jours, avec la joie et le sourire pour tout le monde.
La musique Happy Day or Here Again est composée par Jack Milton sur des paroles de Jack Yellen. Elle connaît un destin particulier lorsqu'elle devient un chanson thème de la campagne présidentielle de Franklin Roosevelt en 1932.
Imagine que nous soyons dans un bateau pour l'Amérique en 1924.
Oh tiens, exactement le rêve que j'ai fait il y a deux semaines. 1924 dans un bateau pour New York. Moi, un jeune homme du nom de Yanis souhaite aller voir une comédie musicale nommée Lady Be Good, composée par George Gershwin et jouée par Fred et Adèle Astaire.
Mais avant de pouvoir aller voir ce spectacle, Yanis doit débarquer et visite la célèbre avenue de Broadway, qui a une distance de 21 km. Puis, il doit se rendre au Liberty Theatre, lieu qui a hébergé le spectacle.
Avec dans la tête les craquements du micro-sillon du disque de Gershwin, Yanis avance vers Manhattan, à Times Square. Il entend les clameurs du Liberty Theatre, 42e rue. C'est le Fascinating Rhythm, le moment fort de Lady Be Good.
Maintenant que je t'ai raconté mon rêve, je te laisse écouter cette magnifique comédie musicale.
C'est l'histoire de quatre amis étrangers, un Américain, un Russe, un Français et un Chinois qui se retrouvent au VNB d'Evron pour regarder la rediffusion des JO de 1984 autour d'une table. L'Américain était présent au moment des JO de 1984 à Los Angeles.
Il y avait 84 musiciens habillés en bleu, on aurait dit des schtroumpfs musiciens. C'était en pleine période de guerre froide, l'URSS versus l'USA, pour faire pétiller les notes de George Gershwin, comme des bulles de champagne.
Jazz made its way from the streets of New Orleans to the finest concert halls of New York and inspired George Gershwin to create this American classic.
C'était peut-être pour ça que les parents du Russe ne pouvaient pas être présents au moment des faits. Ils étaient trop amateurs de rouge aux faucilles et marteaux. Il y avait de quoi repeindre en bleu même un Chinois.
L'oncle Sam a fait les choses en grand. 84 pianistes et 84 pianos pour jouer la Rhapsody in Blue devant 2 milliards et demi de téléspectateurs et 92 000 spectateurs dans le Memorial Coliseum de Los Angeles. Le Chinois est ébloui par l'arrivée de Rocketman dans le stade. Pour la première fois, la Chine participe aux JO. Ils vont finir quatrième au tableau final avec 32 médailles. On peut entendre une musique assez festive qui montre l'ambition et la puissance du pays pendant cette cérémonie d'ouverture.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous accueillons aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, quatre nouveaux invités. Régnier Anaïs et Chausseret Arthur, experts en histoire de la musique, et La Fuente Tessa et Bastarérin Laura, étudiantes en musicologie. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la musique américaine, et plus précisément à un morceau important dans l'histoire de cette musique, j'ai nommé Rhapsody in Blue de George Gershwin. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous pouvez à tout moment participer à cette conférence en nous posant vos questions au numéro de la radio. Maintenant que ce petit rappel est fait, à vous l'honneur, Arthur et Anaïs.
Alors bonjour, Rhapsody in Blue de George Gershwin a été créé le 12 février 1924 à la demande de Paul Whiteman pour sa grande soirée qui consiste à valoriser le jazz auprès des populations blanches. La date de cette soirée a été choisie en raison de la naissance d'Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, qui a permis l'abolition de l'esclavage. Il faut savoir que le titre Rhapsody in Blue n'est pas anodin, puisque la Rhapsody est une pièce musicale à caractère libre, proche de l'improvisation. Et in blue correspond à la note associée au jazz, la blue. Vous comprendrez par la suite pourquoi ce choix de titre a été fait.
Bonjour Margot, bonjour chers collègues. Donc en effet, le jazz est un style musical d'origine afro-américaine et George Gershwin est l'une des personnes à avoir permis la reconnaissance du jazz dans la musique savante. Le compositeur, George Gershwin, n'a eu que quelques semaines pour composer le morceau. C'est pour cela que lors de la soirée, le solo de clarinette et le piano étaient totalement improvisés. La soirée a rencontré un succès phénoménal.
Alors, excusez-moi de vous interrompre, nous avons une question de Martha3618 qui nous demande « Mais pourquoi ne lui a-t-on pas laissé plus de temps ?»
Eh bien parce qu'il y avait un choix de date important. Et puis finalement, ça ne change pas grand-chose, puisque l'improvisation n'est pas totalement due au manque de préparation, mais aussi au style musical, le jazz.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le jazz ?
Eh bien, le jazz est un mélange de différents styles musicaux comme le blues, le ragtime ou encore les musiques européennes. Il a été créé entre le 19e et le 20e siècle dans les États du Sud par la population noire. Ses principales caractéristiques sont le rythme, l'improvisation et le son.
Alors, une question anonyme. Le rythme et le son, d'accord, mais ça veut dire quoi ?
Le rythme est une caractéristique du jazz puisqu'il est variable, il peut changer au cours du morceau. Le son correspond au timbre, à la couleur du morceau. Dans le morceau, les cuivres et le piano jouent le rôle du jazz car ils improvisent. Le piano répond à l'orchestre, qui est un orchestre symphonique. On y trouve donc toutes les familles d'instruments. Cet orchestre symbolise la musique classique dont les principaux critères sont l'harmonie, l'atteinte de la perfection et l'orchestre symphonique. Ici, nous avons un concerto pour piano.
Une question de Pierre PMH. C'est quoi un concerto pour piano ?
Un concerto pour piano est un dialogue entre le piano et l'orchestre symphonique.
Alors bonjour à tous. Pour revenir à la musique classique, elle a été créée vers 1750-1780 en Italie. La musique classique demande plus de rigueur dans l'apprentissage des morceaux, tandis que le jazz laisse plus de liberté dans l'improvisation. Cependant, il n'en est pas moins technique. On retrouve dans le morceau Rhapsody in Blue deux cultures très différentes qui opposent les deux styles musicaux, le jazz et la musique classique, la culture afro-américaine et la culture européenne.
Une question de Lola Anko. Pourquoi George Gershwin a voulu rassembler ces styles pourtant si différents comme vous l'avez dit ?
Sachez que ce n'est pas à l'initiative de George Gershwin de mélanger ces deux styles, mais de Paul Whiteman. De plus, ce ne sont pas les styles musicaux qui sont si différents, mais plutôt les cultures de ces deux styles. Le choix du compositeur Gershwin n'est donc pas anodin, puisque Paul Whiteman désirait valoriser le jazz tout en attirant la population blanche grâce à la musique classique. C'est donc pour réconcilier les populations blanches et noires afin de permettre au jazz de gagner en crédibilité et de gagner sa place dans la musique savante. Nous pouvons donc en revenir au titre du morceau, Rhapsody in Blue, dont nous a parlé Arthur précédemment, qui a donc tout son sens par rapport à l'objectif du morceau, dont le titre valorise déjà le jazz. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette conférence et d'avoir partagé vos savoirs avec nous. Ce fut une très belle découverte pour tout le monde ici présent et l'auditoire.
Destination de Manhattan est arrivée.
Dépêche-toi, on ne peut pas rater la démonstration de George Gershwin.
Regarde, on arrive.
Bienvenue à Tin Pan Alley. Nous sommes en plein cœur de New York, sur l'île de Manhattan. C'est dans cette rue que la musique populaire américaine a fait ses premiers pas.
Mais ça veut dire quoi, Tin Pan Alley ?
Ça signifie l'allée des casseroles. Ça vient du son des pianos, pas très bien accordés, que l'on entend dans cette rue.
Écoute, il joue Alexander Ragtime Band.
Quoi ?
Mais tu sais, le morceau créé par Irving Berlin.
Ce morceau est un parfait exemple de la musique issue de Tin Pan Alley. Simple, facile et efficace.
Ah bon ?
Eh oui, Tin Pan Alley est un lieu de production, mais aussi de vente de partitions. Le but de ces morceaux est donc de plaire à tout le monde, mais aussi d'être facile à apprendre, pour donner envie aux gens de l'acheter.
Mais alors, ils doivent en vendre, des pianos ?
Effectivement. Plus de 25 000 pianos ont été vendus, et 500 000 nouveaux jeunes apprennent le piano.
Ah oui, quand même. Ça a donc eu du succès.
Oui, et ça, c'est grâce aux démonstrateurs, des pianistes, comme George Gershwin, qui sont payés pour jouer dans la rue des morceaux afin de les promouvoir.
Excusez-moi, monsieur, vous qui avez l'air de vous y connaître, pouvez-vous me dire qui est cet homme qui joue ?
C'est Irving Berlin, un démonstrateur issu d'une famille juive qui a appris le piano en autodidacte et qui s'est lancé dans l'écriture de chansons. Il joue bien, non ?
Ah oui, c'est lui qui est à l'origine de White Christmas ?
Exactement, il joue en ce moment un air de ragtime.
De ragtime ?
Ah, le ragtime, un style phare des années 1900, qui est principalement joué à Tin Pan Alley. Les instruments les plus utilisés sont bien sûr le piano, le banjo, la guitare et les fameux cuivres. Le plus célèbre dans ce domaine est sûrement Scott Joplin, un virtuose du piano.
Mais c'est vraiment très intéressant.
Bon, c'est ici que nos chemins doivent se séparer. Notre voyage à Tin Pan Alley touche à sa fin. Nous rentrons de notre hôtel à Manhattan et nous vous souhaitons à tous un très bon séjour.
C'était une production issue du laboratoire sonore de JET. Retrouvez tous les podcasts de nos projets au www.sonolab.fr.